Espace 2, magazine. Son thème de prédilection, c'était un regard critique porté sur le petit bonheur suisse. Peintre réaliste, voire hyper-réaliste, Emilienne Ferny nous revient avec des thèmes plus proches de notre mal de vivre. Une exposition à la galerie Alice Poli à Lausanne. Après la salle de bain, Monsieur, Jean-Philippe Toussaint nous propose La Réticence, un petit livre minimaliste, parano, et qui n'est pas encore un film, mais qui laisse déjà des images fortes. Peinture et littérature après notre dossier Sciences humaines.
Eh bien voilà, le Jura est libre. Cela représente 27 ans de lutte, de sacrifice et d'espoir. Ces dernières semaines, vous avez fourni un effort considérable et vous avez brisé les chaînes forgées en 1815. L'histoire dira que le peuple jurassien s'est libéré par ses propres moyens. La République et canton du Jura ne doit rien à la Suisse. Mesdames et messieurs, chers amis, les fêtes de la libération commencent, elles dureront longtemps.
Nous étions le 23 juin 1974 et nous entendions Roland Béglin, chef du Rassemblement jurassien. C'est dire, Sylvie Lamblay, que pour ce dossier sciences humaines, nous serons au cœur de la question jurassienne.
Oui, nous allons y revenir, cette question jurassienne qui a tant fait parler d'elle et qui continue à soulever les passions, en tout cas dans les régions concernées, même si le canton du Jura existe maintenant depuis bientôt 13 ans. Mais pour beaucoup, en particulier pour tous ceux qui souhaitent toujours la réunification avec le Jura bernois ou le Jura sud, selon de quel bord on se place, on parlera plutôt de Jura bernois ou de Jura sud, eh bien pour beaucoup, la question est loin d'être réglée. D'ailleurs, on le sait, il reste des questions juridiques en suspens et la Confédération a proposé de servir de médiatrice entre les deux parties. Mais dans ce magazine des sciences humaines, nous ne sommes pas là pour distribuer les points et pour peser les pour et les contre. Si nous revenons à cette question jurassienne, eh bien, c'est à la lumière d'une recherche du Fonds national de la recherche scientifique, une recherche qui fait partie d'un vaste programme, le PNR21, nous en avons déjà parlé à plusieurs reprises, un programme centré sur l'identité. Et donc cette recherche est consacrée au Jura, elle a été publiée sous le titre « L'écartèlement, espace jurassien et identité plurielle ».
Et quelle est la particularité de cette recherche? Pourquoi celle-ci plutôt que d'autres?
Alors, première chose, il y a assez peu d'études de type universitaire sur cette région. C'est donc une bonne occasion d'en parler. Et puis, c'est une recherche pluridisciplinaire qui a fait appel à deux historiens, un sociologue, un ethnologue, donc un intérêt également. Mais je crois que ce qui m'a le plus intriguée, le plus intéressée, c'est le fait qu'elle traite d'un sujet passablement chaud, un sujet assez brûlant encore aujourd'hui. Elle a très vite suscité des réactions de tous bords. D'ailleurs, nous en entendrons deux dans ce magazine. Donc, elle met des chercheurs en sciences humaines, des historiens, des sociologues, dans une position, somme toute, assez embarrassante. Ils se retrouvent au centre du débat et du coup, se pose toute la question de l'objectivité des sciences humaines. Avant d'entrer plus en détail dans les résultats de cette recherche, je vous propose d'écouter l'éditeur qui l'a publié. Ce n'est pas un inconnu, en tout cas pas pour les jurassiens. Il s'agit de Maurice Born, connu pour ses prises de position vigoureuses. Maurice Born, des éditions Canevas à Saint-Imier. Je lui ai demandé pourquoi sa petite maison d'édition s'était lancée dans la publication d'un tel pavé. Écoutez.
Ce qui m'a poussé à l'éditer, c'est que j'ai suivi la recherche qui se passait en partie dans cette région, puisque un bon tiers du livre est quasiment consacré au vallon de Saint-Imier, et que j'ai craint à un moment, sachant que cette recherche serait publiée, j'ai craint qu'une fois de plus, elle soit confiée à un gros éditeur lausannois, genevois ou zurichois, pour ne pas le nommer, et que donc arrive sur cette région une espèce de vérité révélée de l'extérieur, une fois de plus. Comme on sait ou on ne sait pas, mais je crois que par ici on sait assez bien comment on passe son temps à pleurer sur l'incompréhension du reste de la Suisse pour la vie de ce Jura bernois sud, comme on veut, et l'incompréhension des médias, spécialement sur nos véritables problèmes. Je me suis dit que plutôt que d'attendre que ça paraisse ailleurs et d'une fois encore se plaindre des rapports qu'on en ferait, il vaudrait peut-être mieux saisir le taureau par les cornes et le faire nous-mêmes.
Vous souhaitiez faire participer les gens de cette région à ce travail, pouvoir prolonger la réflexion, être pour, être contre, mais la forme que vous lui avez donnée en l'éditant n'est pas forcément très propice à une ouverture de grand public. Pourquoi n'avoir pas fait un ouvrage plus grand public ?
Alors, d'abord parce que, à mon sens, il n'était pas question de faire une espèce de digest ou de résumé des recherches de chacun, puisque ce qui me paraît fondamental dans la publication du livre tel qu'il est là, c'est les données qu'il apporte. Il y a une somme de données. Et c'est vrai qu'essentiellement, le livre se caractérise par ça, beaucoup plus que par des analyses spéculatives ou je ne sais pas quoi. Ce qui est intéressant, c'est la somme de données. Alors, est-ce que c'est beaucoup 600 pages ? Est-ce que c'est beaucoup un livre sérieux de 600 pages sur une région qui n'a jamais eu de publication depuis 100 ans solide sur son histoire ou éventuellement sur une partie de son histoire ? Ça me semble très peu, moi, au contraire.
Mais vous pensez qu'il va être lu ?
Je pense qu'il est lu. Je pense qu'il est lu par les gens qui, de bonne foi, veulent réellement se documenter et veulent réellement comprendre qu'il est peut-être temps d'aborder le problème d'une manière un peu différente et d'une manière non pas moins passionnelle, parce que moi je ne suis pas du tout opposé à la passion, mais d'une façon moins directement partisane et surtout d'une façon qui puisse admettre qu'un certain nombre de données sont posées là et qu'on doit faire avec, simplement. Je veux dire qu'il y a eu des évolutions, qu'il y a eu des changements profonds dans la structure économique, la structure sociale, et que prétendre simplement continuer la lutte au niveau où elle se passait dans les années 50 ou même dans l'entre-deux-guerres, simplement, en se référant au même mot d'ordre et au même système de rassemblement, ça me semble dommage, ça me semble être un enfermement. Donc peut-être que la lecture de ce livre peut permettre aujourd'hui à des gens qui réellement sont prêts à accepter des données actuelles de reconsidérer des positions.
Alors là, vous nous dites ce que ça peut apporter à un public régional. Maintenant, aux autres lecteurs, qu'est-ce que cette recherche, ce livre peut apporter ?
Alors écoutez, vous savez bien que ça fait maintenant quelques années qu'on replonge dans le plus profond et le plus dégoûtant du régionalisme. Je veux dire par là qu'on voit renaître plein de mouvements qui se réfèrent à des choses qu'on croyait bien oubliées. Et tout ça pour justifier d'identité régionale, entre autres, ou d'identité nationale.
Par exemple.
Je pense aussi bien à ce qui se passe dans les pays de l'Est qu'à certains renouveaux régionaux européens. Et je pense qu'à la lumière de ce qui se passe, et inversement en utilisant ces éléments d'analyse-là, on peut peut-être arriver à une vision un peu plus large, qui remettrait la région à la place qu'elle pourrait occuper dans quelque chose qui serait, je ne sais pas quoi, une Europe différente, ou un système différent d'alliance entre les gens ou entre les régions. Et ça me paraît très positif, et disons, ça me paraît élargir le propos d'une question purement jurassienne.
Après l'éditeur Maurice Borne, la parole est à l'un des auteurs, Cyril Gigandet, historien. Cyril Gigandet qui montre dans son chapitre historique que l'identité jurassienne a passablement évolué ces 15 dernières années. Il ne s'agit plus d'une identité unique, mais elle est éclatée, plurielle. Cyril Gigandet.
Je crois que ça tient justement aux transformations qui sont opérées avec la création du canton du Jura, avec les plébiscites, avec la crise horlogère aussi. Toutes ces données ont fait que la base, si vous voulez, administrative, associative et autres, a changé. D'une part, on le sait, le Jura a connu une hémorragie de population extrêmement importante, surtout pour les districts du Sud. En plus, le cadre constitutionnel a évidemment évolué. Les jurassiens du canton ont créé leur propre canton, ils ont écrit leur propre constitution, ils ont élaboré leur propre loi. Donc tout ça fait que le cadre, si vous voulez, dans lequel les jurassiens se reconnaissaient ensemble avant la création du canton, ce cadre-là n'est plus le même. Donc on peut dire qu'ils pensent, je veux dire, les jurassiens du canton, les jurassiens qui sont restés dans le canton de Berne, ils pensent leur environnement différemment. Donc on peut plus dire qu'ils vivent exactement la même chose, donc qu'ils ont la même perception des choses.
Mais ils continuent à avoir, si on parle d'identité, ils continuent à avoir les mêmes habitudes alimentaires, les mêmes us et coutumes, ils vont lire le même journal, ils vont écouter la même radio. Donc,
non, je crois justement pas. Notamment dans la partie francophone du canton de Berne, où j'habite, je crois que si l'on est autonomiste, ou si l'on est antiséparatiste, on ne lira pas le même journal et on n'écoutera pas la même radio.
Donc on n'a pas la même identité.
Oui, je crois que surtout, ce qu'il faut dire, c'est que ces transformations, elles ne se sont pas faites seulement en fonction de la frontière créée par les plébiscites, mais elles se sont aussi produites à l'intérieur même du Jura bernois. C'est une des théories que je défends. Je prétends, moi, qu'il y a eu, dans le Jura bernois, un conflit tellement, tellement profond, tellement violent entre ces deux communautés qu'à la limite, on ne se parle plus. Donc, ça implique beaucoup de choses. Ça veut dire qu'on fait partie de sociétés différentes. Ça implique aussi qu'on lit des journaux différents et, encore une fois, qu'on écoute des radios différentes.
Et qu'on va se reconnaître plutôt comme jurassien bernois ou que comme jurassien du Sud.
Ou jurassien tout court, oui, effectivement.
Pour vous, ce sont les plébiscites véritablement qui ont apporté cette transformation de l'identité, plus que la crise économique, par exemple.
Bon, j'ai intitulé la partie historique « Sous le choc de l'histoire ». Je pense effectivement que si on peut parler d'un traumatisme, et je crois qu'il y en a effectivement un qui subsiste dans le Jura, cantonal et bernois d'ailleurs, je pense que c'est les plébiscites qui l'ont créé, ce traumatisme, enfin, en tout cas le plus profond. Disons, la transformation constitutionnelle, législative, administrative, elle n'a pas été toujours vécue très, très facilement, mais je pense que ces transformations-là ont eu moins d'effet sur ce qu'on peut appeler les mentalités que les traumatismes. Là, les gens vraiment sont impliqués à fond. Et ça continue de les marquer, de marquer justement leur attitude politique, par exemple, ou leurs comportements sociaux.
Pourtant, on vous reproche de mettre trop l'accent justement sur la politique et de ne pas tenir assez compte de l'histoire ou de la culture qui sont des éléments de longue durée. On m'a dit par exemple, mais on ne peut pas transformer l'identité comme ça en 15 ans. Enfin, l'identité ne peut pas être transformée en 15 ans. Ce qui compte, ce sont les siècles qui ont précédé et qui ont forgé une identité jurassienne de part et d'autre de la frontière cantonale.
Mais je pense que les gens qui vous ont dit ça n'ont pas tout à fait tort. Je veux dire par là qu'il y a effectivement un passé commun et qui continue d'une certaine manière à vivre, mais je dirais uniquement dans la mémoire des gens. Or, cette mémoire collective de ceux qui ont connu le Jura des 7 districts dans le canton de Berne, cette mémoire collective, pour qu'elle continue à exister, il faut qu'elle soit d'une certaine manière soutenue ou défendue par des institutions. Or, voyez aujourd'hui ce qui se passe, par exemple, lorsqu'on écrit l'histoire du Jura. Comment ça se passe? C'est au canton qu'on s'adresse. C'est pas... Autrefois, on se serait adressé à une association qui permettait, dans son cadre, de faire des recherches. C'est la Société jurassienne d'émulation. Et là, sans distinction de district ou autre, des historiens seraient rassemblés et auraient écrit une histoire du Jura. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas. On va s'adresser à l'Office du patrimoine historique à Porrentruy, et puis éventuellement aux institutions comparables du canton de Berne, et puis entre les deux, on va essayer de faire quelque chose. Donc, la mémoire collective est effectivement importante dans la création d'une identité. Mais moi, je dis que si les institutions qui soutiennent ces identités se sont transformées, alors l'identité va aussi se transformer progressivement.
Sylvie Lemblay, en écoutant Cyril Gigandet, on se dit que la société jurassienne d'émulation a perdu de son impact.
C'est-à-dire qu'elle ne peut plus jouer le rôle de pont qu'elle pouvait jouer autrefois entre tous les jurassiens de part et d'autre de cette frontière qui n'existait pas. Il est clair que pour Cyril Gigandet, les associations qui fonctionnaient très bien justement avant cette rupture, avant la création du nouveau canton, ont en général assez mal vécu le choc et certaines ont simplement disparu faute de moyens. Dans le Jura resté bernois, on a mis en place des associations concurrentes. Dans le nouveau canton, on a dû créer des services administratifs qui ont fait finalement double emploi. Donc il est clair que ce pont entre Jura Nord et Jura Sud, entre nouveau canton et Jura bernois, ne fonctionne plus aussi bien qu'autrefois. Alors, au début de cette émission, je vous parlais des réactions qu'a provoqué cet ouvrage, l'écartèlement, dont il est question dans ce magazine. En voilà une, elle vient du mouvement autonomiste qui conteste haut et fort la notion d'identité plurielle. Pour les autonomistes, pour les séparatistes, comme on les appelle aussi, le Jura ne fait qu'un. C'est l'avis d'Alain Stelet, secrétaire général d'Unité jurassienne.
Cette identité n'est pas éclatée, elle existe. Et surtout, cette identité existe et est reconnue, ou du moins a été reconnue dans le temps, par tous les protagonistes dans l'histoire jurassienne. Le mouvement pro-bernois, jusqu'en 1975, se battait au nom de l'unité jurassienne, au nom de l'histoire jurassienne. Berne elle-même a reconnu en 1950 l'existence d'un peuple jurassien à l'échelle des 7 districts jurassiens. Donc c'est depuis 15 ans, et depuis que Berne a intérêt pour pouvoir conserver sa tutelle sur le Jura Sud, qu'on essaie d'expliquer que l'identité jurassienne n'existerait pas, et nos malheureux chercheurs se sont laissés prendre à ce piège, grossièrement.
Si je vous comprends bien, Alain Stelet, vous reprochez aux chercheurs d'être partisans, de ne pas être objectifs. C'est la pire chose qu'on puisse reprocher à un scientifique, vous en êtes conscient?
Je ne leur reproche pas d'être partisans, pas du tout. Je leur reproche d'avoir une vue trop étroite de l'histoire, puisque, je le répète, on se fonde sur une période de 15 ans pour tirer des conclusions qui concernent toute l'histoire jurassienne et tout le destin du Jura. Et je leur reproche de s'être laissé prendre au piège bernois, qui est de vouloir définir une identité sur des critères politiques. Et en tout cas, dans les conclusions que j'ai lues de cette recherche, c'est des critères politiques qui font admettre à ces chercheurs que l'identité jurassienne serait éclatée. C'est le fait qu'il y a une fédération des communes du Jura bernois dans le sud. C'est le fait qu'il y ait différentes tendances d'idées d'autonomie dans le sud. On parle de Neuchâtel, on parle d'un demi-canton du sud, on parle d'un super-canton. Tout ça, c'est des idées politiques. Et c'est à partir de ce critère-là, qui est un critère très très réduit, qu'on prétend tirer des conclusions au niveau culturel, ce qui est une chose beaucoup plus large. C'est ça le reproche essentiel que je fais aux chercheurs. Ce n'est pas d'être partisan, je ne mets pas en doute leur bonne foi, pas du tout.
Mais est-ce que vous n'êtes pas un peu trop en arrière dans le passé à vous appuyer sur cette culture, sur ce passé, alors que quand même depuis 15 ans, les choses ont changé, justement à cause de cette rupture politique? Est-ce que vous-même tenez assez compte de ces changements politiques?
Les choses ont changé politiquement, mais pas culturellement. Les Jurassiens du Sud parlent toujours français, un peu moins dans l'extrême Sud, où ils ont été assimilés et germanisés dans certaines communes. Les Jurassiens du Sud se sentent toujours non-bernois. Les Jurassiens du Sud ont toujours une très grande conscience de l'histoire jurassienne, de leur identité propre. Donc les choses n'ont pas du tout changé. On ne peut pas comme ça, par décision du gouvernement, décider tout à coup qu'il n'y a plus d'unité ou d'identité jurassienne.
Donc pour vous, ces 15 ans, la création du nouveau canton, cela n'a en rien affecté l'identité?
Absolument rien. Ça a changé des habitudes politiques, forcément. Ça a changé un certain nombre d'intérêts politiques. Ça a changé des rapports de force. Ça a changé des structures, des institutions, mais toujours politiques. Au niveau profond, intime, de ce que ressentent les gens, de ce qu'ils vivent tous les jours, ils sont jurassiens de bon cours jusqu'à la Neuville.
À Alain Stelet parlait à l'instant du niveau intime de l'identité vécue au quotidien. C'est justement le domaine qu'explorait Daniel Kessler, ethnologue, qui a lui aussi participé à cette recherche sur l'identité jurassienne. Il s'est penché sur le vallon de Saint-Imier et il ressort de son étude que le vallon est en perte d'identité, que son identité est déficitaire. Je lui ai demandé ce qu'il voulait dire par là.
Si une région ne peut pas se mettre d'accord sur une formulation d'une identité et s'il n'a pas les occasions de présenter cette identité à elle-même, mais aussi à un extérieur, à travers des fêtes, à travers des représentations dans des instances politiques, alors là, oui, on peut dire qu'il y a un manque d'identité, puisqu'il a deux versions sur l'identité.
Mais alors comment ça se traduit dans la vie de tous les jours, ce manque d'identité ou cette identité déficitaire en perte?
À prime abord, elle se traduit par une grande visibilité identitaire, parce qu'il y a les écussons qui apparaissent partout, dans les jardins, sur les falaises, sur les routes.
Donc on peint les drapeaux des différents cantons?
Des deux cantons, oui, qui sont en question. Mais c'est cette lutte pour la présence sur le territoire qui peut être lu comme un signe d'indécision de la région. À quel territoire politique plus large doit-elle appartenir? Et puis, moi, voyant, il y a dans les rapports entre les gens des blessures, des animosités qui sont créées dans les années 60 et 70 surtout, et qui persistent. Il y a des scissions qui n'apparaissent plus ouvertement, il n'y a dans le vallon plus vraiment de bistrot qui soit identifié d'une façon très nette comme étant fréquenté que par les représentants d'un bord ou de l'autre. Mais il y a quand même un savoir sociologique de la population sur elle-même qui permet d'identifier chaque famille ou chaque individu selon ses préférences cantonales. Et ça peut se traduire dans des actes concrets lors d'élections de professeurs, ça peut se traduire dans des chorales, dans des fanfares, ou certaines pièces de musique ou certains chants qui, il y a 40 ans, étaient chantés par tout le monde, sont depuis devenus des hymnes jurassiens et donc qui ne peuvent ou ne veulent plus être chantés par des pro-bernois. Ça peut se traduire par le fait que si le FC Saint-Imier veut changer son maillot noir et jaune, qui reprend les couleurs de l'écusson de la commune, pour un nouveau maillot qui serait rouge et blanc, alors les pro-bernois interviennent pour dire « Ah non, ça va pas, c'est les couleurs du nouveau canton ». Le moindre détail de la vie quotidienne est toujours scruté pour son symbolisme possible qu'il peut avoir pour la question jurassienne. Mais il y a des secteurs de l'histoire ou de la vie commune qui font tout à fait l'unanimité. Pro-bernois et autonomistes sont tout à fait d'accord dans leur recours à l'histoire industrielle qui se résume à l'horlogerie pour justement là être tout à fait d'accord que le vallon est horloger.
Vous avez un constat, donc je disais très pessimiste en disant qu'il y a une identité déficitaire. Mmh. Et en plus vous dites que vous n'avez pas l'impression que ça va changer, vous n'avez pas l'impression que dans les années à venir le vallon de Saint-Imier puisse se créer une nouvelle identité régionale.
Il y a des tentatives de créer, de formuler cette identité. Il y a l'apparition de faits politiques d'abord, mais qui justement ne concernent toujours qu'une partie de la population. Il y a à Villeray, dans un village du Vallon, une des Alpes qui est organisée toutes les années, mais là encore c'est une fête paysanne qui ne concerne qu'une partie de la population et qui en fait doit importer ces formes des préalpes et des Alpes. Mais je dirais, même si on laisse de côté la question jurassienne, tant que l'économie régionale se caractérise toujours par les suites de la crise des années 70, donc début des années 70, il n'y aura pas une identité régionale fière qui puisse être affirmée communément par toutes les franges de la population.
C'est complètement lié.
L'économie et l'identité, oui. C'est une, comme on l'a dit de la politique, une des bases de l'identité. Même les produits auxquels une population peut se référer.
Mais pourquoi dans le vallon de Saint-Imier, la crise horlogère a eu un tel effet sur l'identité, sur la fierté des gens d'appartenir au vallon de Saint-Imier? On n'a pas cette impression-là avec les Chaux-de-Fonniers, par exemple, qui ont aussi subi la crise horlogère très durement.
Mais à la Chaux-de-Fonds, il n'y a pas une crise politique qui est venue se greffer sur cette crise économique. Et c'est le mélange des deux ou la coïncidence des deux qui fait que la situation identitaire s'est aggravée.
Daniel Kessler, est-ce qu'on peut se passer d'avoir une identité? Là, on a l'exemple du vallon de Saint-Imier où l'identité est en perte de vitesse. Est-ce que finalement, on ne pourrait pas dire, ben, tant pis, on s'en fiche. De toute façon, demain, on appartiendra tous à l'Europe. Donc, tant pis pour l'identité régionale.
Cela dépend de la notion qu'on a du concept d'identité. Si identité veut dire culture, alors on ne peut pas se passer d'une identité. Et on ne peut pas la perdre non plus, puisque une société sans culture est inimaginable. Mais alors si identité veut dire spécificité régionale qui permet à une petite population de se distinguer de ses voisins, là il est tout à fait possible que des changements aient lieu, que des us et coutumes changent, subissent des influences, qui est en fait toujours le cas. Le problème, c'est justement le moment de ces changements et la volonté d'accepter des changements, ou le moment qui peut durer quelques années d'incertitude dans lesquelles une population peut se trouver, où elle ne sait pas à quelle forme communautaire d'une affirmation identitaire elle veut adhérer.
Une région qui perd son identité, qu'est-ce qu'elle risque de subir? Quel est le danger? Quelles sont les conséquences possibles?
Les conséquences que le vallon subit actuellement, ce sont aussi les raisons qui sont à la base de ce constat. Les décisions économiques qui touchent les communes et la région ne sont plus prises au sein de cette région et de ces communes. Et sur un niveau politique, la région ne se sent plus représentée comme elle l'était dans des instances politiques cantonales, par exemple. Cela est aussi vrai pour le niveau national, puisqu'actuellement, le Vallon n'a pas de représentant dans les chambres nationales, ce qui a pourtant toujours été le cas.
Donc ça, c'est source de conflit.
Je ne dirais pas
de frustration. Éventuellement oui. Conflit, à plus long terme.
Conflit avec ces niveaux extérieurs, oui, tout à fait.
Dans cette recherche sur l'identité jurassienne publiée sous le titre « L'écartèlement », je le rappelle, nous avons vu que les auteurs dressent un constat plutôt sévère de la situation dans le Jura bernois. On a parlé d'identité déficitaire, d'identité écartelée. Une réaction maintenant du côté antiséparatiste, du côté pro-bernois, par la voix de Claude Merazzi, directeur du Centre interprofessionnel de Tramelan.
L'identité du Jura bernois passe par les compétences professionnelles. Et la crise, à partir de 73, va en quelque sorte démolir la dimension la plus importante de l'identité des gens de la région, c'est-à-dire nier ces compétences professionnelles qu'on pensait éternelles, celles de l'horloger, celles du technicien. La deuxième crise, l'ouvrage le dit aussi, c'est que durant tout le XXe siècle, déjà la fin du XIXe siècle, les porteurs d'identité, écrivains, société jurassienne d'émulation, les porteurs de formation se trouvaient effectivement dans ce qu'on appelait le Jura Nord, pour Antruy, Dolémont. Et là, il y a eu des modifications importantes. D'une part, Bienne est devenu un autre lieu de formation francophone du canton, donc un pôle dynamique. Et alors, moi, l'identité du Jura bernois, elle doit se construire, elle est en train de se construire sur plusieurs vecteurs, sur la redécouverte de compétences professionnelles, de savoir-faire, de diversification des savoir-faire. On voit apparaître des foires d'horlogerie, on voit apparaître le SIAMS à Moutier, on voit le Technicum de Saint-Imier prendre une place importante dans le programme CIM. Donc c'est cette affirmation par le savoir, par les compétences, la diversification du tissu du secondaire et l'affirmation du tertiaire, c'est là que je vois la dynamique. Et dans cette dynamique, automatiquement, d'autres affirmations d'identité peuvent se faire par des sociétés, par la vie villageoise.